les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour. Pour cette émission des mots du protestantisme, Canal Académie vous propose une rencontre avec le pasteur Laurent Schlumberger. Laurent Schlumberger, bonjour,
bonjour,
bienvenue. Vous êtes pasteur de l'Église réformée de France. Vous avez occupé dernièrement un poste à la mission populaire au foyer de Grenelle à Paris. Et vous venez de le quitter pour présider l'Église réformée de France. Vous avez le goût de la formation et de la pédagogie. Vous êtes aussi particulièrement attentif aux questions de société. Et vous aimez la radio. Ensemble, nous avons choisi un mot qui résonne tout particulièrement chez les protestants, le mot « parole ». Et il arrive même que pour parler de Dieu, les protestants disent « la parole » avec une majuscule.
C'est vrai. Quelquefois, on dit que les protestants, c'est une religion du livre ou un peuple du livre en référence à l'usage intensif qu'ils font de la Bible. C'est peut-être pas complètement faux, on y reviendra certainement. Mais en même temps, s'il fallait garder un seul mot, je pense qu'il faudrait mieux garder le mot « parole » que le mot « Bible » pour des raisons religieuses, pour des raisons d'actualité, puis aussi pour des raisons historiques au fond. Parce que tout a commencé, j'allais dire, non pas par la parole, mais par l'oreille pour les protestants. On est à la fin du Moyen-Âge, fin 15e, tout à fait début 16e siècle, et rappelez-vous les cathédrales dans lesquelles vous êtes entrés, les églises de cette époque, c'est l'œil qui est constamment sollicité. Quand on entre dans une cathédrale, il y a un porche avec un magnifique bas-relief au-dessus du porche, avec les scènes de jugement qui sont dépeintes avec des détails magnifiques. C'est l'âge des vitraux. Et puis surtout, dans les églises du Moyen-Âge finissant, tout est organisé dans l'espace pour attirer l'œil, le cœur au centre, les arcades, les colonnes, les bas-côtés, le déambulatoire au-dessus du cœur, tout ça est fait pour attirer l'œil. Et on a à cette époque-là une sorte de spiritualité de l'œil ou encore du regard. Il y a très peu de communion, il y a très peu de prédication, il y a peu de sermons, sauf à certains moments de l'année. En revanche, les fidèles entrent dans l'église, restent debout, circulent autour de l'église avec l'œil qui est attiré par ce qui se passe sur l'autel, avec le sacrifice de la messe, avec le clergé qui est là. Une spiritualité vraiment de l'œil et du regard. Et la réforme protestante, au début du XVIe siècle, va opérer une sorte de révolution pour mettre au centre non plus l'œil, mais l'oreille.
Comme chez les Juifs.
D'une certaine manière, sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, en effet, comme chez les Juifs, les protestants, à bien des égards, se retrouvent assez proches des Juifs et ils redécouvrent, ils n'inventent rien, comme bien souvent quand il y a un mouvement de réforme ou de redécouverte. Ils n'inventent rien, mais ils redécouvrent la pertinence et la centralité de quelque chose, en l'occurrence de l'oreille. Alors, dans les églises, qu'on va continuer à utiliser, parce que ce sont des lieux où on peut se réunir nombreux, on va mettre au centre non plus ce qui sollicite l'œil, mais ce qui sollicite l'oreille. Par exemple, le plan des églises est transformé avec la chaire qui est latérale, mais qui devient l'endroit central où le prédicateur va parler, va s'adresser à l'assemblée qui est là. La parole du prédicateur, la parole de la lecture, ça devient central. Mais l'oreille est aussi sollicitée à travers le chant. Les protestants au XVIe siècle, et ça continue depuis, c'est toujours le cas aujourd'hui, chantent beaucoup, non pas avec des chantres qui sont comme ça seuls à chanter dans le cœur, mais c'est toute l'assemblée qui chante. Et donc, en même temps, on parle et on écoute quand on chante. Au fond, les protestants se sont rappelés cette phrase qu'on trouve dans une lettre de l'apôtre Paul, « La foi vient de ce qu'on entend », non pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et si on y réfléchit bien, ce passage de l'œil à l'oreille, c'est une espèce de révolution intérieure ou spirituelle et même de transformation profonde de la manière de voir le monde. On peut faire une petite expérience très simple que chaque auditeur peut faire. Là où vous êtes maintenant, vous pouvez fermer les yeux et puis les rouvrir. Et si vous êtes attentif à ce qui se passe à ce moment-là, vous vous rendez compte que quand vous ouvrez les yeux, sans bouger la tête, sur la droite, vous voyez une chaise, en face de vous, vous voyez votre commode, à gauche, vous voyez la fenêtre, et vous, vous êtes au centre de tout ça. Avec l'œil, le monde s'organise autour de vous, l'œil vous place au centre du monde que vous percevez. Mais si tout à coup, vous entendez dans la rue, par exemple, une ambulance qui passe, ou quelqu'un qui vous appelle, ou la porte qui sonne, ou la radio, tout simplement, qui marche comme en ce moment, et vous entendez ma voix, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas vous qui êtes au centre. Vous tendez l'oreille. Vous vous rendez compte que ce n'est pas en vous, mais ailleurs que ça se passe, que vous n'êtes plus au centre. Vous voyez, l'œil, ça vous place au centre. L'oreille, ça vous décentre.
Ça vous décale.
Ça vous décale. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le centre du monde. Et à l'époque de la Réforme, dans un tout autre domaine, mais d'une manière tout à fait convergente, on fait la même découverte, c'est dans le domaine de l'astronomie. Dans le domaine de l'astronomie, la première moitié du XVIe siècle, c'est l'époque où Copernic, le savant polonais, travaille. Et Copernic découvre que ce n'est pas la Terre qui est au centre du monde connu. Avant, c'était la Terre et l'homme qui se mettaient au centre, un petit peu comme avec le regard qui me met au centre du monde. Copernic découvre que c'est le Soleil qui est au centre, avec la Terre qui tourne autour, un peu comme l'oreille qui me fait sentir que le centre du monde, il est ailleurs qu'en moi et que moi, je suis un participant, mais un peu périphérique à ce monde. Et bien, la Réforme, c'est aussi cette même époque, c'est toute cette découverte-là. Au fond, on peut dire que la Réforme, elle a mis au centre non plus l'être humain avec ses réussites ou ses échecs, mais elle a mis au centre Dieu et sa parole. C'est la grande révolution spirituelle, mais aussi, on le voit, sensorielle et intellectuelle qu'elle opère. Voilà. C'est comme ça que la parole vient au centre chez les protestants.
Oui, et d'ailleurs, cette parole est très importante dans le culte, notamment réformé, puisqu'elle est au cœur du culte.
C'est vrai.
Alors, Dieu s'exprime dans ses textes bibliques. Bon, c'est pour cela qu'on dit la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, si elle s'exprime dans les textes bibliques, alors que reste-t-il à la parole des êtres humains, à ma propre parole?
Vous avez raison de dire que la parole est centrale dans les cultes protestants aujourd'hui et dans les temples protestants. Par exemple, il y a toujours une Bible ouverte au centre des temples protestants. Et même les protestants se piquent un peu de ne pas se réunir dans des temples très beaux. C'est peut-être une manière, comme ça, en creux, d'insister sur le fait que l'œil n'est pas très sollicité, mais que l'oreille est vraiment mise au centre. Alors, la Bible est centrale, bien sûr, et je vais y venir. Mais la réforme protestante, ce n'est pas d'abord lire un texte tout seul, dans son coin, avec la tête entre les mains. La réforme protestante, c'est d'abord une prise de parole. Vous savez, Luther, le fondateur du protestantisme, avec d'autres, hein, il n'était pas seul, mais bon, c'est la grande figure emblématique du début du protestantisme. Luther, c'est quelqu'un qui n'a pas craint de prendre la parole face au pape, tout seul, un petit moine allemand face au pape et face à l'empereur, l'empereur germanique. Il faut se rendre compte combien c'était d'une audace incroyable, d'une audace au sens propre inouïe, c'est-à-dire inentendue jusque-là. Luther a pris la parole, il s'est adressé tout seul, j'allais dire, face au monde. Plus que ça, face au pape, c'est-à-dire le représentant de Dieu et face à l'empereur. Et il n'a plus lâché cette parole. Et les protestants, à sa suite, les princes protestants, mais ensuite beaucoup d'autres, ont pris cette parole et ne l'ont plus lâchée. Et ils ont exercé, pratiqué, utilisé cette parole, je dirais, d'une triple manière. D'abord, la parole a été prise par les protestants pour le peuple. Ce n'est pas simplement quelques intellectuels qui ont pris la parole, mais ils ont eu le souci dès le début de l'éducation du peuple, de prêcher, c'est-à-dire de tous les jours. Hein, tous les jours, il y avait des prédications, c'est-à-dire des sermons, des discours d'édification pour expliquer la Bible, expliquer la vie. Ce phénomène de la prédication était d'une importance considérable. On se bousculait pour entendre les prédicateurs. Et puis, très vite, les protestants ont installé des écoles pour les enfants, pour les adultes, des académies pour faire de l'enseignement universitaire.
Comme Calvin, par exemple.
Comme Calvin. Calvin a fait de la ville de Genève une espèce de vaste ville-école parce que l'éducation, apprendre à parler, à comprendre, à écouter, c'était absolument central. Donc l'école était partout. Et d'ailleurs, les pasteurs ne sont pas un clergé, comme dans la tradition catholique, ce sont des enseignants. Ils portent une robe noire, qui n'est pas une robe religieuse, mais une robe universitaire pour bien souligner l'importance de la parole et de l'enseignement. De l'enseignement pour le peuple. Il s'agissait de transmettre des connaissances et une autonomie dans la réflexion au peuple tout entier. Alors, l'écrit est venu au secours ou en relais de cet enseignement oral, c'est-à-dire qu'on mettait par écrit des sermons, et ensuite on les reliait, et puis on les imprimait, on les a diffusés dans toute l'Europe. À l'époque de Calvin, la ville de Genève était probablement la ville où on imprimait près de la moitié des écrits imprimés en Europe. C'était vraiment considérable. Donc, la première dimension concrète de cette parole, c'était pour le peuple. La deuxième dimension de cette prise de parole, c'était non pas une parole au sens d'un enseignement du haut de la chair tout seul, mais une
interaction.
Voilà, en interaction, en débat, et même en polémique. Hein. En polémique est beaucoup plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. On n'avait pas peur des controverses publiques, des joutes oratoires qui, à leur tour, étaient mises par écrit, ça faisait des pamphlets et ça démultipliait la parole en quelque sorte. Mais c'était vraiment une parole vive, une parole aiguisée, une parole tranchante quelquefois. Donc, vous voyez, d'abord une parole pour le peuple, mais aussi une parole dans le débat et dans la polémique. Et puis enfin, et vous en parliez tout à l'heure, une parole qui ne se fonde pas en elle-même, mais qui s'y réfère à une autre parole qu'on appelle la parole de Dieu. Dans la tradition catholique, on se référait, et on se réfère toujours, à la Bible bien sûr, mais en même temps à la tradition des anciens commentateurs et au magistère, c'est-à-dire à ce que l'Église enseigne aujourd'hui. Les protestants ne se réfèrent pas à une tradition, ne se réfèrent pas à un magistère, mais à la Bible dans laquelle ils entendent résonner la parole de Dieu, si vous voulez, la vraie parole.
Merci Laurent Schlumberger et à bientôt sur Canal Académie. Nous continuerons cet entretien dans une prochaine émission des mots du protestantisme. Et nous nous séparons sur une musique du film Bagdad Café. Au revoir. A desert road from Vegas to nowhere. Some place better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. I am calling you. Can't you hear me? A change is coming.